Christine de Védrine, que nous accueillons ce soir, est restée, comme 10 membres de sa famille, sous la coupe de Thierry Tilly de 2000 à 2009. Son témoignage est fort, captivant et, je pense, pédagogiquement fort utile. Christine, vivre cela, ça a été terrible, mais écrire et vouloir témoigner, pourquoi ?
Alors, pourquoi avons-nous décidé d'écrire ce livre, ma famille et moi ? Parce que, si vous voulez, notre histoire privée était passée dans le public et nous avons vraiment éprouvé le besoin d'écrire la vérité de ce que nous avions vécu, parce que jusqu'à présent, c'était raconté de l'extérieur et donc il était très important pour nous que la vérité soit dite. J'ai voulu aussi écrire ce livre parce que il était évident de ce par quoi j'étais passée. Par contre, ce qu'avaient subi mes enfants et mon mari, les témoins. Et ça, je voulais que ce soit dit. En plus, si un jour j'ai des petits-enfants, ce que je souhaite, je ne voudrais pas qu'il y ait des non-dits qui deviennent après des secrets de famille. Donc, bon, ils pourront peut-être lire ce livre s'ils en éprouvent le besoin.
Vous dites dans ce livre, nous n'étions pas armés. Pensez-vous que l'on puisse être armé contre ce genre de prédateur ?
Eh bien, je pense en effet que c'est très difficile. Et c'est pour ça que nous avons écrit ce livre, pour essayer de montrer comment un tel personnage peut, par des techniques très au point, prendre une emprise sur toute une famille dite normale, ordinaire. Parce que c'est vrai, si vous voulez, moi j'ai choisi ce titre parce que honnêtement, je n'étais pas armée. Parce qu'on n'est pas armé contre le mensonge. Moi, à la maison, et je pense comme beaucoup d'entre vous, on ne mentait jamais. Et c'est vrai que cet être, si vous voulez, qui vous manipule par des mensonges en se servant de gens de votre famille, eh bien, je n'ai pas su vraiment faire face.
Alors justement, on va rentrer un petit peu dans le récit. Ce qui m'a le plus étonnée, c'est que tout au long des pages, l'on sent que vous êtes lucide sur tout ce qui se passe, mais que vous n'arrivez pas à réagir. Ainsi, lorsque votre mari remet en cause vos conseillers après qu'il ait rencontré Thierry Tilly et qu'il semble, ce qui n'est pas son habitude, subjugué par cet homme, vous lui proposez de se renseigner sur lui et vous écrivez. Je me souviens de cette soirée. Nous sommes dans notre chambre. Je l'ai meublée pour qu'elle soit la plus douillette possible. J'ai acheté deux lampes de chevet qui diffusent une lumière suffisamment tamisée pour lire au lit et en même temps assez douce pour créer une ambiance sereine de repos. J'aime ce que j'ai fait de notre chambre. Elle est l'image de la vie paisible. Or, à ce moment précis, j'ai l'impression fugitive que Charles-Henri ouvre une fenêtre sur le chaos. Ça ne dure que l'espace d'un éclair, mais le malaise va demeurer au plus profond de ma mémoire. Maintenant, plus de 10 ans après, je le retrouve intact en écrivant ces lignes. Et donc, la question que je vous pose, c'est comment vous, femme de caractère, vous avez écrit ça ? Comment, pourquoi n'avez-vous pas réagi ?
Alors évidemment, c'est une question que je me suis posée. C'est vrai que quand je suis sortie de cet enfer et que je suis arrivée à Bordeaux, je me suis dit, mais comment ai-je pu ainsi accepter tout ça ? C'est très compliqué. Je l'explique un petit peu en disant que nous étions une famille assez matriarcale, pour pas dire plus. Et quand je suis rentrée, on m'a dit, mais c'est terrible, finalement, les enfants, vous avez manipulé votre mère, votre belle-mère. Et en fait, c'est pas ça qui s'est passé. Et c'est ça le pire, en fait. C'est que ma belle-mère a été très vite subjuguée par Thierry Tilly. Et comme, si vous voulez, elle était très admirée par le reste de ses enfants, je parle là de ses fils, c'était fichu. Elle a été, si vous voulez, ma belle-mère et sa fille avaient une relation très forte, puisque ma belle-sœur avait fait une grave dépression. Et donc, si vous voulez, ma belle-mère faisait tout pour la garder en forme. Et quand ma belle-sœur a présenté ce Thierry Tilly comme un sauveur, ma belle-mère l'a adoubée. Alors oui, comment ai-je pu ? Parce que je n'ai pas bon caractère, hein. Faut pas croire.
Non.
Je suis soupaulée, mais c'est vrai que je n'aime pas les conflits en famille, je ne sais pas les régler. Et bon, je l'explique un peu, mais peut-être que je me cherche des excuses. C'est que j'ai une sœur qui a 16 ans de plus que moi. Je n'ai jamais eu de conflit qui ne prête pas à conséquence. En famille, on se chipote, mais... Et ça, je ne l'ai pas eu, moi, ça. Donc,
vous n'avez pas appris à vous battre ?
Non. En famille, je n'ai pas appris à me battre. Donc, si vous voulez, moi, j'étais prête à faire toutes les concessions. Et à tort, hein, Et donc, en fait, c'est un peu le syndrome de la femme battue. Si quelque chose ne va pas, c'est de ma faute, il faut que je fasse plus d'efforts.
Ouais. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le rôle de Guylaine, quand même, votre belle-sœur. C'est elle qui a introduit le loup dans la bergerie. C'est elle qui... est-ce que, à quel moment avez-vous eu connaissance, justement, de son lien avec Thierry Tilly ?
Oui, alors ça, c'est aussi une raison pour laquelle j'ai appelé ce livre « Nous n'étions pas armés ». C'est qu'en fait, Thierry Tilly vivait dans l'entourage de ma belle-sœur et de son mari depuis 3 ans. Donc, il savait tout de nous, nos failles, nos défauts, nos qualités aussi. Et nous ne le connaissions pas. Et en plus, nous ne savions pas qu'il savait tout de nous. Donc, en fait, quand il est arrivé dans notre famille, eh bien, il savait très bien la manipulation. Il avait toutes les clés.
Il avait, oui, parce que votre belle-sœur les lui avait données. Mais quel est le caractère de Guylaine ? Comment a-t-elle pu, elle aussi, se faire manipuler ? Parce qu'il y a bien eu un déclenchement.
Oui, alors ça, c'est sûr. C'est-à-dire que Thierry Tilly est rentré dans sa vie à un moment où elle avait des problèmes professionnels et familiaux. Elle avait son ménage, ça arrive dans tous les ménages. Donc en fait, ça a été dit par ses enfants. Nous, on ne le savait même pas en fait, ça. Il y avait beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Donc en fait, Guylaine est une personne qui a beaucoup de qualités, mais qui est très autoritaire. Et elle avait beaucoup de... Sa mère, elle avait beaucoup d'influence sur sa mère. Mmh. Et donc, si vous voulez, elle s'est beaucoup confiée à Thierry Tilly. Je pense qu'il y avait des ressentiments qu'elle lui a exprimés. Et lui, lui a donné la clé, justement, de mettre en œuvre ses ressentiments.
Et Jean, qui est le mari de Guylaine, quel a été son rôle ? Parce que je pense que lui aussi a été manipulé au départ.
Oui, vous avez tout à fait raison. Il a été manipulé lui aussi, puisqu'il est resté près de Thierry Tilly de 97-98 à 2001. Et c'est vrai qu'au tribunal, la présidente du tribunal lui a dit « Mais enfin, monsieur, pourquoi n'êtes-vous pas allé voir votre belle-sœur ?»
Oui, il ne s'est pas conduit en allié avec vous.
Non, il n'a pas vu le moyen. Là, et moi, je dis que Thierry Tilly a eu beaucoup de chance, souvent. Et là, Jean, avec qui je m'entendais bien, n'est pas venu me voir en me disant « Là, il y a un problème. » Parce que lui, l'a connu pendant 4 ans. Et ce n'est pas lui qui est parti de lui-même, c'est Thierry Tilly qui l'a éjecté, puisque Guylaine ne pouvait pas rester avec deux personnes à côté d'elle.
Donc c'est Thierry Tilly qui a éjecté
Jean. C'est Thierry Tilly qui a en organisant un simulacre de
que vous pouvez raconter. Pour ceux qui
on l'a tellement raconté, tout le monde le connaît. Mais c'est vrai que là, Thierry Tilly a monté toute une scène, une scène pour éjecter Jean Marchand. Et c'est vrai que il n'est pas venu m'en parler. Et c'est pourtant on était 2 pièces rapportées. Il savait que j'étais assez méfiante de caractère. Chose que j'ai pas trop montré, mais quand même. Et on aurait pu faire front tous les deux. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Et ça, c'est un de mes grands regrets.
Mmh. Oui, parce que Jean s'est toujours posé en victime. Et son rôle est assez trouble par rapport à la manipulation de la famille, je trouve.
C'est-à-dire, c'est toujours difficile à dire, si vous voulez, mais c'est vrai qu'il a eu un rôle important que l'on décrit à un moment. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans la manipulation, il y a un moment où il y a une paranoïa qui s'installe. Mmh. La manipulation, vous avez la séduction, après vous avez la paranoïa, et puis il y a un moment où après ça devient on fatigue les gens, on les harasse, et après on les lamine. Et Jean, justement, comment vous dire, il aurait pu, c'est difficile à dire, mais quand il a été éjecté, par exemple, alors que nous, on était en pleine paranoïa, ça a augmenté, hein, Guylaine était même la première à nous distiller cette paranoïa. Et bon, il y a eu des menaces... Il y a eu des menaces qu'il nous a faites au téléphone, qui malheureusement, il les a faites certainement parce qu'il était malheureux d'être coupé de sa famille, mais ça a été épouvantable parce que du coup, ça a cautionné le fait que nous étions attaqués. Ouais. Donc, sans le vouloir, il a eu un rôle important, oui, dans la manipulation de Thierry Tigny.
Et justement, pour comprendre, revenons sur les liens familiaux. Vous êtes entré dans une famille protestante, vous-même, vous êtes catholique. Mmh. Grande bourgeoisie lotégaronnaise, très clanique. Mm. Et vous, Christine, vous venez d'où ? Quelles sont vos origines ? Est-ce qu'il y avait une lutte des classes entre...
Non, il n'y avait pas une lutte des classes, il n'y avait pas non plus de guerre de religion. Mais c'est vrai, bon, beaucoup de gens dans la salle me connaissent. Bon, moi, je suis bordelaise. Une partie de ma famille est bordelaise, une autre, mon papa était poitevin. Ils se sont rencontrés, mes parents se sont rencontrés en Agenais après-guerre. Je faisais partie par maman d'une très grande famille, je veux dire famille très nombreuse, alors que du côté de papa, on était très peu en fait. Et c'est vrai, et malheureusement pour moi, pour moi ça a compté ça, et ça explique un peu pourquoi j'ai tant voulu me rapprocher de ma belle famille, c'est que nous n'étions que deux, ma sœur et moi, et ma sœur a 16 ans de plus que moi. Ce qui fait que, bon, moi j'ai toujours aimé les grandes familles, j'aurais voulu faire partie d'une famille nombreuse, et c'est vrai que j'ai été attirée par les quatre frères et sœurs, et ce qui a été aussi malheureusement déterminant pour moi, c'est que j'ai perdu mes parents très jeunes, et honnêtement je me suis sentie orpheline, c'est comme ça, j'avais 38 ans quand j'ai perdu maman, et je m'entendais très bien avec elle, et ça pour moi ça a été terrible, parce que du coup je me suis davantage rapprochée de ma belle famille, et bon, ça ceci explique cela peut-être.
C'est ce qui explique la haine de Guylaine ?
Alors c'est vrai que Guylaine a ressenti le fait qu'on s'entende très bien, ma belle-mère et moi, comme elle a eu l'impression que j'ai volé sa mère. Du reste, dans ses 10 ans, elle a dit « tu m'as volé ma mère et Thierry me l'a rendue ». Donc vous voyez, un manipulateur, il prend toutes les failles émotionnelles des gens. Ouais. C'est un aîné qui perd sa place d'aîné. Thierry lui dit « mais tu... » vous allez le retrouver grâce à moi. C'est un jeune qui peut-être ne se sent pas reconnu par sa famille, à qui on promet monts et merveilles. Il y a des techniques et Thierry Tilly les connaissait toutes.
Et puis c'est aussi peut-être le rôle de Guillemette, là, je dirais, on ne dit pas matriarche, mais le patriarche, enfin, qui elle aussi a totalement adopté Thierry Tilly et presque comme un fils. Racontez-nous l'anecdote de la nappe.
Oui, c'est une anecdote qui, je trouve, est très révélatrice. Ma belle-mère, qui cousait très bien, c'était une très très bonne... Elle cousait, elle brodait énormément. Et pour tous ses enfants, elle avait brodé une nappe. C'était la même nappe, le même modèle, mais des tailles différentes et des couleurs différentes. Donc c'était quand même un symbole, ces nappes, c'était un symbole de chaque enfant, de chaque foyer. Eh bien, donc elle a brodé 4 nappes, mais vous savez, ce n'était pas des nappes qu'on brodait en 15 jours, hein. Elle y passait des mois. Eh bien, la 5e nappe, elle a été brodée pour Thierry Tilly.
C'est fou, ça.
Et ça, c'est vrai que c'est pour vous montrer à quel point ma belle-mère, qui était une femme de caractère, Parce qu'elle elle avait un certain âge, mais c'était une femme de caractère.
Que tout le monde respectait.
Que tout le monde respectait énormément, parce qu'elle avait, pendant la guerre, porté à bout de bras une propriété alors que son mari était prisonnier en Poméranie. Donc, elle a adoubé Thierry Tilly comme finalement le chef de famille, hein, oui. Le fils aîné. Et ça, ça a été terrible. Parce que mon mari et son frère respectaient énormément leur mère. Et là, on était piégés.
Donc, si on peut dire, on reconstitue, c'est un espèce de puzzle de circonstances qui ont fait que
oui.
C'est une malchance énorme. Je voudrais qu'on parle aussi de la préface. Vous avez demandé à Daniel Zaguri, enfin... Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez demandé.
C'est Plomb.
C'est Plomb,
oui,
votre éditeur, la maison d'édition,
a eu
une très très bonne idée, a demandé à Daniel Zaguri, qui est un expert psychiatre auprès des tribunaux, qui a fait l'expertise psychiatrique
de toute la famille,
de préfacer votre livre. Et il nous parle, justement, pour expliquer le phénomène de l'emprise mentale, du transfert. Je vais vous lire un petit extrait, parce que ça permet effectivement de comprendre. Il dit, il existe dans la vie courante, par exemple, dans la relation médecin-malade ou maître-élève, le transfert fait réémerger les premiers temps de la vie, quand tout dépendait de l'amour des parents pour survivre. Le transfert est donc marqué du sceau de l'inconscient, de l'infantile et de l'irrationnel. C'est ce que vous nous expliquez vraiment bien,
oui,
Chrissy.
Tout à fait. C'est vrai, il explique très bien. Et c'est vrai que quand beaucoup de gens, d'amis ou de ma famille avaient demandé s'ils pouvaient venir nous soutenir au procès, aux différents procès, Et bien évidemment, on leur avait dit oui. Et ça a été très très bien, parce qu'ils nous ont montré à quel point venir au procès leur avait permis de tout comprendre. Bon, avant, ils nous soutenaient par amitié, mais ils ont beaucoup mieux compris. Et entre autres, Daniel Zaguri a été lumineux. Et c'est pour ça que je suis vraiment très heureuse qu'il ait préfacé le livre. Car il explique très très bien ce phénomène de transfert, nous ramener à un état d'enfant où on est vulnérable, on a un sauveur entre guillemets. Et en fait, il a joué, monsieur Thierry Tilly, le rôle d'un thérapeute dévoyé.
C'est ce qu'il dit, la relation d'emprise telle qu'exercée par Thierry Tilly sur l'ensemble de la famille peut donc être examinée sous l'angle d'un habit de transfert. Un personnage s'introduit dans la famille. Très vite, il prend toute la place. Il est à la fois adoubé, ce qu'il a été par guillemette, et coopté. C'est extraordinaire.
Oui, c'est extraordinaire, c'est vrai. Bon, il faut vous dire que c'est un manipulateur de haut niveau. Il n'a fait que ça, en fait. Il n'a jamais travaillé, donc il ne sait faire que ça. Et il le fait très bien.
Alors...
Et il le fera très bien encore quand il sortira.
Voilà. Le problème, c'est que dans 10 ans, je ne sais pas dans combien de temps il va sortir. Enfin, il a pris 10 ans, ça tout le monde le sait. Mais il va recommencer. C'est sa manière d'être.
Alors, justement,
chère Christine, oui.
vous me tendez une perche.
C'est mon rôle.
Oui, parce que si vous voulez, bon, les gens souvent disent, mais nous ne comprenons pas. Notre grande joie, ça a été que la justice a compris, elle, oui. Puisqu'elle lui a donné le maximum.
Absolument.
10 ans.
10 ans. Et ça veut dire que la justice a pris en compte la manipulation mentale, chose qui n'était pas prise en compte il y a quelques années.
Oui.
Et
la
ça, c'est
faiblesse,
un énorme pas.
Oui.
Mais ça, on va y revenir.
Parce
que ce que je trouve d'extraordinaire, le déclic de sortie, vous l'avez eu toute seule. Comment, après ces 10 ans, alors, on a pris le parti de ne pas revenir sur les faits, parce que je pense que vous les connaissez. Il est plus intéressant d'analyser le pourquoi des choses. Comment, Christine, avez-vous pu sortir de cette emprise? Comment rejoindre la France et vous retrouver dans la vraie vie? Comment?
Alors, si vous voulez, ça c'est la partie dont j'aime parler. Le déclic, il s'est produit Je m'en souviens encore. C'était, si vous voulez, j'avais peu de contacts avec Tilly. Les contacts étaient rapportés par Charles-Henri, qui, lui, le voyait. Mais par contre, je m'apercevais au fil des jours que mon fils aîné Guillaume était de plus en plus calomnié, car il avait pris un peu de recul avec Tilly. Et dès qu'on prend du recul avec ce genre de personnes, on devient un ennemi. Et donc j'ai bien compris très rapidement que mon fils aîné allait être laminé et que les deux autres suivraient. Et là, bon, il y a des ressorts dans la vie et mon instinct maternel a pris le dessus. Et donc c'est ainsi que la première partie de mon déclic s'est faite. La deuxième partie, évidemment, c'est Bobby.
Alors, qui est Bobby ?
Bobby est un homme charmant que Thierry Tilly a eu l'erreur de me faire rencontrer, puisqu'il m'a mise au travail. Et j'ai donc travaillé un an avec M. Pouget de Saint-Victor comme patron. Et il avait évidemment sous-estimé l'amitié qui allait se créer entre nous, et surtout l'estime que je retrouvais pour la première fois en 10 ans. C'est-à-dire qu'en 10 ans...
L'estime de vous-même.
Oui, l'estime, ouais. L'estime de moi-même, parce qu'il avait la gentillesse de me dire que ce que je faisais était bien, toujours agréable. Et alors que moi, pendant tous ces 10 ans, on me disait que tout ce que je faisais était mal. Donc là, c'est vrai qu'il m'a redonné du punch, c'est le cas de le dire, et le déclic final, c'est vraiment grâce à lui. Et en plus, il a mis en œuvre mon départ.
Oui. Donc, oui, parce que vous n'aviez pas d'argent, vous n'aviez pas...
Non, je n'avais pas d'argent, puisque si vous voulez, j'avais quand même un salaire, je travaillais énormément d'heures, mais il prenait donc 90% de mon salaire.
Thierry Tilly prenait 90% de votre salaire.
Donc en fait, Charles-Henri et moi, nous vivions en fait avec à peu près l'équivalent de 80 euros par mois, ce qui fait que... C'était formidable du reste, parce que j'étais, à l'époque, je pesais 50 kilos. Donc ça... C'est dommage.
À quel prix, quand même.
Oui, mais bon, c'est le seul point positif de l'histoire. Je me suis rattrapée depuis.
Mais non, c'est très bien, c'est très bien.
Bobby, en fait, un de mes amis qui est là, dit, et il a raison, c'est l'anti-Tilly, en fait. Ouais. Parce qu'il il s'est rendu compte, évidemment, que bon, j'étais pas vraiment la cuisinière... né, quoi. Il a bien vu qu'il y avait un problème quand même, que Charles-Henri, médecin, était jardinier. Bon,
mais il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Voilà, mais il était très discret, il ne posait pas trop de questions. Et puis un jour, bon, il m'a dit, bon, allez, Christine, asseyez-vous.
Racontez.
Et bon, ça a été un concours de... Bon, et là, j'ai raconté. Un dixième de seconde, je me suis dit, j'y vais pas. Et j'ai raconté.
Vous avez quand même hésité ?
J'ai hésité parce que, vous savez, Tilly nous connaît bien. Et il avait dit que si j'avais ce job, c'était grâce à un de ses patrons, à son patron, comme il disait. Donc, si vous voulez, même si il y avait vraiment une amitié entre Bobby et moi et de l'estime mutuelle, il y avait quand même, voyez, toujours le petit subconscient. Donc là, je me lance et il me dit, écoutez, il faut réagir, hein. Il faut réagir, Christine, il faut réagir, parce que c'est un grand malabar d'un mètre 90, une présence. Et alors, je lui dis, mais oui, bon, et j'étais parvenue à récupérer tous les numéros de téléphone de mes proches, que j'avais réussi à prendre sur Internet, grâce à parce que j'avais pas droit, on n'avait pas Internet, hein. Donc si vous voulez, j'avais un peu menti. Là, je gérais une cuisine et j'avais donc sous mes ordres des aides, dont un Français qui, je savais, avait Internet. Alors je lui ai dit, écoutez, voilà, je voudrais faire une surprise à Charles-Henri. Est-ce que je pourrais consulter voilà. Et c'est comme ça que j'avais récupéré les téléphones de ma sœur, de mon cousin Germain.
Votre sœur qui n'avait pas eu de nouvelles de vous depuis combien de temps ?
Depuis 10 ans, hein, presque.
Depuis 10 ans.
Et je dois remercier tous ces gens de ne pas être sur liste rouge, quand même. Hein. Parce que l'histoire aurait été différente. Donc, en fait, j'avais le numéro de téléphone et il me dit, bah, il faut appeler. Alors, j'ai dit, bah, oui, mais j'étais incapable de faire le numéro. Hein. C'est lui qui l'a fait, qui l'a composé. Et donc, j'ai eu ma sœur. Enfin, j'ai appelé ma sœur qui n'était pas là. Et c'est son mari qui a répondu. Et là, vous voyez, c'est très important, le premier contact avec oui. l'extérieur. Si j'avais senti un petit peu de retenue, parce que, bon, vous savez, c'est un vrai lavage de cerveau, la manipulation, l'emprise oui. mentale. Donc, en fait, il nous avait persuadé que... Moi, il me disait tout le temps, de toute façon, personne ne vous aidera, vous êtes oublié. On vous a oublié, Christine ne comptait... Et bon, bah, finalement, on y arrive à le croire. Donc, si mon beau-frère avait été un petit peu réticent, alors que là, j'ai tout de suite senti beaucoup d'affection. Beaucoup d'émotions. Mmh. Et il en a été de même avec mes cousins et Marie-Hélène, à qui j'ai dit « c'est Christine ». Et comme elle a une fille qui s'appelle Christine, elle a été un peu étonnée. Mais je lui ai dit « mais si, c'est Christine ». Et c'est ainsi que j'ai appris par ma cousine Anne que Marie-Hélène avait pris un avocat depuis 2004.
Mmh. On peut citer son nom ?
On va le citer, tout à fait. C'est Maître Picotin, qui évidemment a été un élément extraordinaire dans notre histoire, puisqu'il a, il m'a facilité tout le travail.
Mais ça, alors d'abord, je vais en parler après. On va en parler après, parce que c'est important, puis ça va au-delà du ça va, on espère que ça aille au-delà du fait, puisque... avec une loi peut-être, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Ce que j'aimerais, c'est qu'on reste là-dessus. Donc, vous appelez votre sœur, vous appelez Marie-Hélène, vous appelez votre cousine. Et qu'est-ce qui se passe ?
Alors, on me dit, faut... Alors, bon, moi, je suis quand même encore très fragilisée. Hein, je dis, je ne savais pas, je me fixais un truc. Je voulais porter plainte, mais je ne savais pas s'il fallait le faire à Scotland Yard ou en France. Et là, on m'explique bien que c'est en France qu'il faut venir. Et moi, au début, je me disais, je vais quand même rester en Grande-Bretagne. Et puis, bon, j'essaierai pour rester avec ma famille. Et j'ai très vite compris que ce n'était pas faisable. Donc, il fallait que je rentre. Mais rentrer, ça voulait dire laisser Charles-Henri et mes trois enfants sur place, à la merci donc, de Tilly. Donc, pour moi, ça a été difficile. Et j'ai dit, écoutez, laissez-moi 3 jours. Et pendant 3 jours, j'ai essayé de faire réfléchir Charles-Henri sur mon nom. Et j'ai vu que ce n'était pas faisable, que ce n'était pas possible.
Mais il n'était pas dessillé, lui.
Non, du tout,
enfin,
du tout.
Dessillé, le...
Non.
Voilà.
Non.
Les yeux ouverts.
Pas du tout. Et donc, j'ai pris la décision de rentrer et d'agir en France. Bon, il faut dire que nous pensions tous, quand même, que Thierry Tilly serait arrêté rapidement. Nous n'avions pas imaginé que ça allait durer 9 mois.
Ah oui.
Parce qu'il a fallu attendre 9 mois, en fait, une grossesse, pour que je retrouve en premier mon fils aîné, et un mois après, le reste de ma famille. Parce qu'il a fallu...
Oui, parce que, Christine, vous arrivez à Bordeaux, là, vous portez plainte.
Oui, tout de suite.
Tout de suite.
Oui. Grâce, bon, ça, c'est vrai que...
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord entre l'Angleterre et la France. Ils ne sont pas dans les accords de...
Oui, alors, ce n'est pas vraiment... c'est pas tout à fait par rapport à Schengen,
oui,
ce qu'on pensait. Non, c'est-à-dire qu'il y avait, si vous voulez, la loi britannique et la loi française n'étaient pas dans le même niveau, si vous voulez. Donc, ils ne pouvaient pas estrader Thierry Tilly pour les motifs dont on l'accusait.
D'accord.
Et surtout, ils souhaitaient, mais ça, nous n'avons pas voulu, que les faits qui s'étaient passés à Oxford soient jugés sur le territoire britannique. Et ça, nous, on n'a pas voulu parce que c'était pas possible, si vous voulez, de couper notre affaire en...
Oui, en plusieurs.
Voilà. Oui. Donc, on a tenu. Et c'est vrai que je remercie énormément les deux juges d'instruction qu'on a eus. La police aussi qui a travaillé sur nos dossiers qui étaient compliqués parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire et si Thierry Tilly a été arrêté, c'est grâce à notre juge d'instruction de l'époque
Lorenz,
ouais. qui a eu la très bonne idée de faire rendre ses papiers à Thierry Tilly parce que dès ma plainte, en fait, dès mon arrivée en France, il avait mis Thierry Tilly sous écoute. Donc, il avait pressenti que ce monsieur voulait partir en Suisse. Et donc, il a fait rendre ses papiers par la police anglaise, qui a collaboré. Et lui ne s'est pas méfié et il est parti en Suisse. Et là, en Suisse, l'extradition a marché immédiatement.
Voilà.
Donc ça a été formidable. Alors je voudrais parler de ces 9 mois quand même, parce que ça a été 9 mois de... Moi, j'étais sûre que j'y arriverais. J'étais persuadée que j'y arriverais, mais des moments de découragement. Et c'est vrai que c'est grâce à mes amis, à une maison qui s'appelle Les Anneraux, à ma famille, que j'ai pu...
Tenir.
Tenir, exactement.
Sans avoir de contact avec votre mari, sans avoir de contact avec vos enfants.
C'est-à-dire que je leur écrivais quand même des lettres. Parce qu'il faut toujours essayer de garder le contact. Donc j'ai écrit des lettres à tous, mais elles ont été évidemment reçues de façon différente.
Il les recevait, les lettres ?
Certaines, ils les ont reçues, oui.
Ouais. Mais ne les prenez pas telles qu'elles étaient écrites ?
Non, mais peu importe, ça fait rien, ouais. Le lien n'est pas rompu.
Oui, c'est très important.
Et de toute façon, pour moi, c'était très important de pouvoir écrire à mes enfants mon chéri et à Charles-Henri aussi, parce que bon, ça me faisait tenir aussi.
Bien sûr. Alors justement, la deuxième étape, après ces 9 mois, Thierry Tilly sous les verrous, vous et avec Maître Picotin, vous décidez de partir chercher... Le reste de la famille.
Oui, donc, oui, parce que c'est là l'emprise. Thierry Tilly est arrêté, mais le reste de ma famille ne rentre pas. Voilà. Et ça, moi, je l'avais très très bien compris, je l'avais même anticipé. J'avais même anticipé presque les paroles que Thierry Tilly leur avait dites, c'est-à-dire du style, j'imagine, j'ai fait exprès de me faire arrêter, ou on va peut-être m'arrêter, mais ne vous inquiétez pas, c'est un leurre, etc. Donc il a fallu organiser avec des spécialistes un voyage à Oxford, si vous voulez, pour, alors bon, c'est difficile à dire, récupérer, retrouver.
Exfiltrer.
Alors ça, vous voyez, c'est quelque chose que, évidemment, je ne connaissais pas. Ce sont des spécialistes qui nous l'ont proposé. Donc ça se prépare très en amont. C'est-à-dire qu'il a fallu, avec mon beau-frère Philippe et Brigitte, qui étaient en France, bien expliquer tous les enchevêtrements psychologiques des uns et des autres pour que sur place, on puisse, si vous voulez, mettre
avoir
la bonne
les
clé.
Les mots adéquats.
Ouais. Et mettre la bonne clé dans la bonne serrure. Voilà. Et si vous voulez, malheureusement, alors donc nous sommes partis une première fois, et malheureusement, alors donc avec, entre autres, hein, je parle pas des spécialistes, je parle pas de Daniel Picotin, je parle donc de, il y avait Philippe, Brigitte, Dominique et Marilène, plus l'équipe. Et c'est vrai que ça a été une expérience formidable qui nous a énormément soudés. Dominique, qui est là, j'en profite pour le dire, a eu un rôle important de médiation. Et je regrette de ne pas l'avoir davantage dit dans le livre, parce que vraiment, il a été un élément de consensus formidable, d'humour, enfin, parce qu'il en fallait un peu quand même. Donc, première fois, première expédition, malheureusement, la presse est prévenue. La presse anglaise est prévenue. J'ai la joie de pouvoir retrouver mon fils aîné Guillaume, ce qui est formidable évidemment. Mais c'est lui qui nous prévient du reste. Il dit « ça y est, maman, la presse anglaise est prévenue, il y a eu des fuites ». Bon, alors ça, évidemment, ça nous a complètement... on a été effondrés, évidemment, qu'il ait pu y avoir des fuites. Hein. Bon, en plus, on comprenait un peu, on pouvait penser de savoir d'où ça venait. Donc, eh bien, nous étions...
On peut dire aujourd'hui d'où ça venait.
Oh, c'est compliqué, oui, enfin bon, on pense... En... Bon, alors,
bon,
donc,
on
en fait...
Pas.
Non, alors, donc, là, Guillaume, donc, lui, il est tout à fait... Ça a été formidable, je le dis. Quand il a compris que Thierry Tilly était arrêté, qu'on allait se battre contre lui, j'ai vu mon fils, j'ai vu une tonne tomber de ses épaules. C'était très, très émouvant. Donc, en fait, il va rentrer. Lui aussi, il va porter plainte. Il va bien s'investir dans le dossier parce que c'est tellement compliqué que bon, ben, lui arrive à s'investir. Il a un diplôme en droit, donc il va bien nous aider. Parce que c'est vrai que moi, ce n'est pas ma tasse de thé quand même, hein, le droit. Mais c'était très important que nos témoignages soient très structurés et surtout que tous les témoignages, et c'est ce qui s'est passé, si vous voulez, il y a eu mon premier témoignage et après, tous les témoignages se sont enchevêtrés. Il n'y a pas eu ça de différence. Si vous voulez, on a tous tellement dit la vérité que bon, c'était...
Oui, puis les choses s'imbriquaient les unes dans les autres. C'était logique
complètement.
Après.
Oui, oui.
Ça faisait un tout.
Et on a eu aussi la chance d'avoir un juge d'instruction qui a très bien compris. Oui. Il a très bien compris ce qui nous était arrivé. Il ne nous a pas pris pour des oseaux. On a eu en face de nous...
Donc, il y a eu un premier exit, Guillaume sort.
Oui.
Deuxième exit, on appelle ça l'exit counseling.
L'exfiltration,
c'est
oui.
L'exfiltration, c'est le mot un peu barbare américain parce que ça a été mis au point par un ancien de la secte Moon qui s'appelle Steven Hassan. Et qui va venir samedi témoigner lui aussi. Et c'est vrai que la deuxième fois, c'est l'ensemble de la famille.
Alors la deuxième fois, c'est donc plus réduit. Nous sommes plus réduits. Donc
vous partez en très très petit comité.
Reste
et de façon très secrète.
Voilà, très secrète. Même ma sœur n'est pas au courant, nous ne le disons pas. Donc là, Guillaume participe et va nous aider, mais il n'y a plus mon beau-frère Jean. Et donc nous allons pouvoir retrouver toute la famille. Toute la famille qui est restée, c'est-à-dire Guylaine, ma belle-mère, ses deux enfants et moi, mes deux enfants. Et mon mari, et Charles-Henri, oui. Bien sûr. Mais ça, bon, il fait tellement partie de moi que bon, je... Bon, enfin. Donc là, écoutez, c'est ça qu'il faut. Il faut vraiment se rendre compte de ça. C'est que c'est docteur Zaguri qui le dit. Pendant ces années de manipulation, l'intelligence demeure, mais les temps jachèrent. Oui. Donc, si vous voulez, quand des spécialistes utilisent les bons mots et les bonnes clés, comme j'ai dit tout à l'heure, ben, l'intelligence revient très vite. Donc, en fait...
L'intelligence et la lucidité.
La lucidité. Oui. Alors, la lucidité, oui, jusqu'à un certain point quand même, parce que si vous voulez, Charles-Henri vous dira que lui... C'est une exfiltration qui s'est faite très en douceur. Du reste, pour tout le monde, ça s'est fait très en douceur. Mais, si vous voulez, il ne s'était pas rendu compte quand même qu'il était complètement ruiné.
Il s'en était pas rendu compte.
Non. À l'époque, il n'avait pas réalisé.
Mais justement, ça répond à une des questions après ce cataclysme. Est-ce que votre famille s'est dispersée ? Bien non, on voit, avec la présence de Guillaume, de Diane, d'Amaury, de Charles-Henri, que la famille n'a pas été dispersée. Loin de là. On va terminer, oui. On va clore avec le sujet et le film. Non, le livre. C'est pas. Parce que je voudrais savoir, malgré tout, Christine, justement, pendant tout ce temps, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous ?
Alors, le plus dur pour moi, honnêtement, ça a été, si vous voulez, d'être coupée de mes enfants. Parce que nous avons, on nous a séparés, et pour moi ça a été le plus dur, parce que quelque part je me suis laissée voler mon rôle de mère. Mm-hmm. Alors bon, le rôle protecteur de la mère, là je ne l'ai pas, j'ai pas su, je l'ai pas ou pas pu, le jouer pendant toutes ces années, et ça a été très dur, sans compter que je ne savais pas, mais je me doutais, mais je ne savais pas à quel point Tilly avait agi contre les trois de façon
Très différente,
très
mais
différente,
très mais perverse,
très perverse et plus que perverse puisque en fait je pense que j'aurais pu, on pourrait ne pas être cinq aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
Oui, et ça c'est quelque chose que j'ai du mal à pardonner parce que bon. Agir comme il a agi, Diane qui n'avait que 15 ans à l'époque, lui laissait croire que nous ne l'aimions pas, que ses frères ne l'aimaient pas, idem pour Amaury, c'est vraiment, C'est vraiment honteux.
C'est monstrueux, même.
Quant à mon fils Guillaume, ben, il pourrait ne pas être là aujourd'hui, ainsi que d'autres. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment un monstre. C'est un monstre froid, et qui malheureusement, quand il sortira, les spécialistes disent qu'il recommencera.
C'est ça qui est terrible. Mais globalement, si on veut qualifier votre livre, vous le qualifiez comment, votre livre ?
Alors moi, je n'ai pas perdu mon optimisme et ma foi dans la vie, et ma foi tout court. Ouais. Et je veux, si vous voulez, que ce livre soit quand même un livre d'espoir, parce que nous en sommes sortis. D'autres peuvent s'en sortir s'ils sont aussi manipulés. Et je dirais que, que c'est un livre sur l'amitié et l'amour.
Voilà, ça, je voulais que vous me disiez ça. Quand on avait préparé, c'est vraiment un livre
pour
sur
moi,
l'amitié. Oui. Mais c'est vrai, c'est un livre qui est plein de... Il y a à la fois des choses très optimistes, et c'est ça qui est magnifique. Et en même temps, le récit est très dur, mais vous restez optimiste et avec une vision formidable, très esthétique de la vie. Et ça, je vous incite tous à lire ce livre. Vraiment.
C'est gentil. C'est-à-dire que je profite pour vous remercier tous parce que, comme je l'ai souvent dit, mais je trouve que, parce que j'en ai eu des béquilles, alors je trouve que l'image est bonne. Vous tous été mes béquilles et vous l'êtes encore. Et vous êtes aussi pour mes enfants et mon mari. Et ça, sans votre aide à tous, on n'aurait jamais pu se reconstruire comme on le fait jour après jour.
Vous dites ce genre de manipulation, hélas. Et ça, j'en suis persuadée, peut arriver à tout le monde. Quel est le conseil que vous pouvez donner aujourd'hui au vu de cette malheureuse expérience ?
Alors d'abord, aux familles, de beaucoup se parler. Entre nous, peut-être qu'on ne se parlait pas assez, par pudeur peut-être, par éducation. C'est vrai que quelquefois, on ne se parle pas assez. Et donc, un étranger, si vous voulez, c'est mon fils Amaury qui l'a dit, je crois, en premier. Il a dit, moi, ce qui a été terrible pour moi, c'est que Thierry Tilly parlait avec mes mots. Donc, en fait, il a cru être compris par lui. Et peut-être que nous, il pensait qu'on ne le comprenait pas. Et voilà, donc, plus se parler. Ne pas avoir peur de dire, écoute, je ne sais pas, éviter les non-dits. Mm-hmm. Ça me fait de la peine, du reste, actuellement, quand je vois des gens se chipoter pour des bêtises, je me dis, mais arrêtez, parce que vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Alors ça, c'est le côté pour ne pas se faire manipuler, aussi ne pas non plus faire rentrer des étrangers chez soi, bien que nous, quand même, il avait été recommandé par un avocat aussi, Guylaine, et un avocat.
Un avocat qui l'a spolié.
Oui, qu'il a spolié lui-même, oui. Mais si vous voulez, c'est vrai que pour Charles-Henri, ça a été important. Ouais. Parce que, un avocat avenue Montaigne, on lui fait confiance quand même. Par contre, si dans votre entourage, vous avez des gens que vous pensez être manipulés, je pense, je ne suis pas spécialiste, mais qu'il faut agir rapidement. Mm-hmm. Essayez de garder le contact, même si c'est normal, la personne manipulée, elle ne va pas vouloir le contact, mais essayez de le garder, soit par téléphone, essayez de garder le contact, et puis garder espoir, parce que on y arrive, la preuve. Parce que nous, on dit 10 ans, c'est long, mais moi, je connais des gens qui sont restés sous emprise 20 ans.
Ouais.
10 ans,
Puis il y a des associations peut-être qu'on peut contacter.
Il y a des associations, entre autres une sur Bordeaux, Info Secte, qui est rue du Faux, derrière la mairie. Alors ce mot secte, nous n'étions pas une secte, nous. Mais c'était une manipulation de type sectaire. Mais nous n'étions pas du tout une secte. Mm-hmm. Thierry Tilly n'était pas notre gourou. Ça, je tiens à le dire, parce qu'une secte, si vous voulez, on se rend compte du danger. On se rend compte, on dit elle est partie chez Moon, et là on sait qu'il faut agir. Mais une manipulation comme on a connu, si vous voulez, il faut savoir qu'elle existe.
Oui, ça devrait s'appeler info manipulation mentale,
oui,
plutôt que info secte. Voilà. On va changer le nom.
Et alors, voilà, exactement. Je vais faire une action, une pétition. Et puis aussi, bon, aussi pour les gens manipulés qui reviennent à la vie, je dirais, normale. Mm-hmm. À la vraie vie. Nous, on dit la vraie vie. Ouais. Il faut qu'ils portent plainte.
Oui.
Parce que Tilly avait déjà escroqué des gens. Oui. Entre autres, un héritier quand même de la famille Gosset des Champagnes, qui bon, n'a pas porté plainte.
Son avocat n'a pas porté plainte.
Son avocat, oui. Ça nous aurait aidé. Ah oui. Parce que, bon, ça aurait été sur son casier. Et quand les gendarmes venaient nous voir et qu'on leur posait des questions, bon, ben, on aurait su que quelque chose, si vous voulez.
Voilà quelques conseils. Je vous laisse.